Alors la prédication sera sur les textes que nous avons lus et aussi sur le texte que nous écoutons maintenant dans l'évangile, de Marc. L'évangile de Marc, chapitre 6, Marcus, capitule 6. Le verset 30 à 34, vers 36 puis 34. Donc c'est la suite du texte de dimanche dernier. Les apôtres avaient été envoyés par Jésus pour délivrer les gens qui étaient liés par des démons et aussi pour guérir les malades. Voilà la suite. Marc chapitre 6, verset 30. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, « Vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup de monde qui venait repartir et eux n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent en barque vers un lieu désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent à cet endroit et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Notre Église va participer, à partir d'aujourd'hui, à une campagne d'évangélisation, d'opération mobilisation. Nous aurons une réunion à la salle des fêtes jeudi soir à Saint-Rémy-sur-Durol. Et toute une animation l'après-midi au bord du plan d'eau. Alors pourquoi évangéliser? On peut se poser la question raisonnablement, pourquoi évangéliser? Les gens peuvent se procurer une Bible s'ils veulent et puis découvrir eux-mêmes la foi chrétienne. Pourquoi évangéliser? D'autant plus que le mot « évangéliser » a mauvaise presse. Et ça, on y est pour quelque chose parce qu'il y a eu des abus au cours des siècles de la part de toutes les églises. Pas seulement les églises évangéliques, les églises catholiques, orthodoxes, protestantes, toutes ont abusé en manipulant les gens, parfois en utilisant même la violence. Nous avons oublié ça, mais ça reste dans l'inconscient collectif. On a peur d'être évangélisé. Peut-être faudrait-il changer d'ailleurs ce mot. Il y a une traduction qui dit l'évangélisation, ça consiste à faire des annonces heureuses. Et ça, c'est une très bonne traduction du mot. Faire des annonces heureuses. Et combien on aurait besoin d'entendre des annonces heureuses? On entend beaucoup d'annonces malheureuse, déprimante aujourd'hui. Et on a une belle mission, annoncer des choses heureuses. Oui, ce serait bien de changer le vocabulaire, mais nous savons bien que ce n'est pas en changeant le vocabulaire qu'on change la réalité. On est spécialiste en France pour changer les mots. On ne dit plus femme de ménage, on dit un technicien de surface, ou des choses comme ça. Mais ça reste quand même le boulot de faire du ménage, quoi. Et c'est pas en changeant le mot évangélisation qu'on change la réalité et qu'on améliore, et surtout qu'on trouve la motivation. Car c'est cela qu'il faut découvrir. Pourquoi Jésus a dit d'évangéliser? Pourquoi? Et dans Matthieu, il y a un parallèle à notre texte, et Matthieu dit que quand il a vu cette foule, qui étaient comme des brebis harassées et prostrées. Matthieu décrit plus précisément l'état psychologique de la foule. Elle était comme des brebis harassées et prostrées. Alors c'est là, il a été vraiment pris aux entrailles. Il a dit à ses disciples, il faudrait plus d'ouvriers. Priez que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Vous voyez, Jésus a à cœur l'évangélisation parce qu'il a une profonde tendresse pour ces gens, une profonde compréhension de ce dont ces gens ont besoin. Et il a beaucoup d'amour à leur donner. Bien, c'est vrai, nous avons tout de suite la réponse à notre question pourquoi évangéliser. Il n'y a pas d'autre raison que l'amour de Jésus. Cet amour est tellement merveilleux, cet amour est fort, cet amour l'a conduit jusqu'à donner sa propre vie sur la croix et son amour est toujours le même aujourd'hui. Et nous avons beaucoup de textes qui parlent de cet amour extraordinaire de Jésus. Remarquez que ce n'est pas le fait que la foule est souffrante qui est indiqué comme le motif qui émeut tellement Jésus. C'est le fait qu'ils sont sans berger. Parce que on trouve aujourd'hui, même dans les villages, même des villages reculés, vous trouvez des cabinets de relaxation, des cabinets de bien-être, hein, des cabinets pour ressourcement, des cabinets de rebuilding, de se recomposer soi-même, de se restructurer, enfin tout ce que vous voulez. Il y a plein de gens qui viennent résoudre le problème de la souffrance. Jésus voit plus profondément que le symptôme de la souffrance, de la tristesse. Il voit qu'il n'y a pas de berger. Car au fond, si nous pouvions résoudre nos problèmes de fatigue, de découragement, de dépression, nous n'aurions pas encore résolu le vrai problème. Parce que le vrai problème, c'est qu'on n'a pas de berger. Et Jésus, il a à cœur d'être berger. C'est son identité. Il se sent touché. Jésus se sent touché dans son identité parce que vraiment c'est ce qu'il a le plus à cœur. Il y a dans l'évangile de Jean tout un chapitre où Jésus dit qu'il est le bon berger. Alors on en a un peu marre d'entendre ces versets parce que ça fait enfantin de parler. Mais Jésus ne parle pas de manière enfantine. Il parle avec l'amour de Dieu. Il révèle dans son discours ce profond amour qu'il a. Et il y a plusieurs manuscrits dans Jean 10 concernant les versets 29 et 30. Il y a deux sortes de manuscrits. Alors, la plupart des traductions n'emploient qu'une seule sorte. Mais on pourrait traduire le verset 29 et 30. De la manière suivante, le verset 28, je commence au verset 28. Les brebis, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père, ce qu'il m'a donné est plus grand que tout. Voilà comment on pourrait traduire ce verset 29. Mon Père, ce qu'il m'a donné est plus grand que tout. Et personne ne peut arracher de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. La plupart des traductions ne suivent pas cela. Ils disent « mon Père est plus grand que tout ». Mais là, il y a des manuscrits qui disent « mon Père, ce qu'il m'a donné est plus grand que tout ». Et c'est quoi ce que le Père a donné à Jésus ? C'est le troupeau que le Père a donné à Jésus. Pour Jésus, le troupeau qu'il a en charge est reçu de son Père, il ne l'a pas inventé, lui, ce troupeau. C'est un troupeau qu'il a reçu de la main de son Père. Pour lui, ça, c'est plus important que toute chose au monde.
Le fait d'être le berger de ce troupeau, le berger de ces gens, pour lui, c'est ce qui lui tient le plus à cœur, c'est le motif même pour lequel il est venu, d'être berger. Ça, nous voyons ainsi dans l'âme de Jésus l'accomplissement de la prophétie dans Jérémie, dans Ésaïe. Dieu parle plusieurs fois qu'il est le berger d'Israël, qui va faire revenir les Juifs dans leur terre, qu'il est le berger, et que David est associé à cette fonction de berger, étroitement associé à Dieu lui-même. David est presque divinisé dans les prophéties de Ésaïe, de Jérémie. Il est associé à Dieu quand Dieu agit comme berger. Et voilà ce que Jésus dit ici. Moi, je suis associé à mon Père pour être berger. Et moi et le Père, nous sommes un. C'est pas un au masculin, c'est un au neutre. Nous sommes un dans l'action. Nous sommes une seule façon d'agir. Le Père a une façon d'agir et celle que j'utilise, moi, c'est la même façon d'agir. Moi et le Père, nous sommes un dans l'action. Nous sommes dans une unité d'action. Et cette unité d'action explique la mort de Jésus. Voilà pourquoi il se donne jusqu'à donner sa vie. J'ai lu pour préparer ce culte un livre d'un homme qui a été longtemps propriétaire de moutons. Il s'appelle Philippe Keller. Il a eu un grand troupeau en Afrique. Après, le Seigneur l'a appelé à évangéliser, à devenir évangéliste, missionnaire. Mais il a eu pendant longtemps un troupeau. Et donc, il connaît le métier d'éleveur de moutons. Et c'est un travail que nous ne connaissons pas, nous. Parce que ça a disparu de notre civilisation. Mais c'est un métier qui demande un engagement permanent. C'est un métier où il faut chaque jour observer une à une, les brebis. Il faut les observer chaque jour. Il faut être attentif chaque jour. Chaque jour, parce que si vous ratez un moment où vous pouvez encore réagir par rapport à une maladie ou à une souffrance, si vous ratez ce jour, vous risquez de la perdre. Et donc c'est un métier où il faut investir toute sa vie en permanence, jour et nuit. Il n'y a pas de répit. Il faut penser. Il faut penser pour le troupeau. Il faut prévoir. Il faut préparer. Il faut préparer le lieu où elles dorment. Il faut nettoyer. Il faut préparer réfléchir quels sont les pâturages qui sont les meilleurs où elles peuvent aller sans se fatiguer trop. Il faut prévoir l'eau. Enfin, je ne vais pas faire le détail. Il a cette phrase extraordinaire. Il dit, en quelque sorte, la vie du troupeau, c'était le prolongement de sa propre vie. Tellement sa vie était impliquée dans ce travail. On peut comprendre un peu ça. Si ceux qui ont des jardins, plus vous êtes actifs dans votre jardin, et plus beau il sera. En quelque sorte, le jardin témoigne du travail que vous avez investi. Bon, eh bien, Le troupeau, par sa vitalité, par sa santé, témoigne de l'investissement du berger, de l'investissement du propriétaire. Et c'est ce que Jésus veut pour nous, que notre propre vie soit le reflet de la sienne, que notre propre vie soit le prolongement de la sienne. Alors et pour ce faire, il nous connaît. Jésus dit, mais je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme moi je connais le Père et que le Père me connaît. Quelle parole merveilleuse qu'on peut tout le temps se remettre en mémoire. Et peut-être quelque chose en nous résiste au fait d'être connu par Jésus. Certainement. Sinon il n'y aurait pas toute cette opposition quand on évangélise, quand on a des annonces heureuses à faire. Comment ça se fait que ça réagit violemment en opposition ? Jésus connaît ses brebis et l'homme a peur d'être connu de Dieu. L'homme a peur parce qu'il ne connaît pas Dieu, il ne comprend pas qui est Dieu. Il ne comprend pas que de Dieu qui se révèle en Jésus crucifié, ressuscité, c'est pas un Dieu qui veut du mal. C'est pas un Dieu qui vient juger. C'est pas un Dieu qui vient détruire comme le loup, comme les bêtes carnivores qui bouffent les brebis, ou les pasteurs aussi. Parce que beaucoup de prophètes parlent de ces pasteurs qui ont bouffé le troupeau au lieu de s'en occuper pour qu'ils prospèrent. Jésus est celui qui se donne et qui nous connaît, mais pas pour nous juger. Pas pour nous juger. Et le pasteur Philippe Keller, qui a écrit un livre sur le travail du berger, il dit, et même, s'il connaît ce qu'il y a de pire en nous, il nous aimera encore plus fort. Voilà la vérité sur Jésus. C'est une façon de transposer une parole de l'apôtre Paul, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc n'ayons pas peur d'être connus jusqu'au plus profond de nous-mêmes par celui qui est notre berger. Il ne nous connaît pas pour nous juger. Nous avons peut-être aussi une autre peur d'être connus comme ça par Dieu et guidés par Dieu. C'est qu'on perd notre personnalité. Finalement, une brebis, on n'aime pas être des brebis. On n'aime pas être des moutons. Tout le monde veut être anti-mouton. Tout le monde veut mener sa vie comme il veut. Surtout pas être dirigé, surtout pas. Surtout pas que d'autres, que Dieu prenne des décisions à ma place ou me guide. Mais Dieu ne nous guide pas, premièrement, contre notre volonté. Jésus dit qu'il frappe à la porte, et pourtant c'est lui qui a construit la bergerie, mais il ne rentrera pas par force. Il frappe, et pourtant il aura tous les droits d'entrer en tant que propriétaire de la bergerie. Non, il y a une délicatesse dans l'amour de Dieu. Il respecte chaque brebis. Et Jésus exprime cela dans Jean 10 en disant, j'appelle par leur nom les brebis qui m'appartiennent. Par leur nom. Donc elles ont un nom. Maintenant, parlez voir avec les éleveurs de vaches ou de moutons. Elles n'ont plus de nom. Ils ont des numéros là, aux oreilles. Numéro 886. Numéro 43. Voilà, il n'y a pas d'identité. Mais Jésus connaît chaque mouton par son nom. Ça veut dire qu'il ne détruit pas la personnalité de la personne qu'il conduit, qu'il dirige. Il crée une communion, il fait passer sa vie dans la nôtre. Gloire à Jésus. Amen.